12h31 sur France Culture. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. L'humanité est-elle en train de quitter l'Union européenne? La question soulevée par le délégué général de France Terre d'Asile se pose à nouveau après qu'un navire humanitaire a été contraint hier de forcer le blocus des eaux territoriales italiennes pour tenter de débarquer sur l'île de Lampedusa les 42 migrants bloqués à son bord depuis deux semaines.
Quand la diplomatie du pétrole fait dérouler le tapis rouge au prince héritier saoudien, pourtant suspecté d'avoir commandité le meurtre et le démembrement du journaliste Jamal Khashoggi.
Oui, hier, Mohamed Ben Salman est arrivé au pays du matin calme pour sa toute première visite en Corée du Sud. À deux jours du sommet du G20, électrisé notamment par le choix du président américain de briser le consensus international sur la question du climat, Emmanuel Macron, en visite au Japon, a d'ores et déjà prévenu hier qu'il refuserait un communiqué final trop timide contre le dérèglement climatique.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, cette question, comment adapter les collectivités à l'évolution du numérique?
Et un programme baptisé Action publique 2022 prévoit que la totalité des services administratifs soit dématérialisée et accessible en ligne d'ici à 3 ans, un sujet au cœur du séminaire des interconnectés qui se tient jusqu'à ce soir à Paris. Enfin, l'invité politique dans une vingtaine de minutes, Cédric O, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes Publics chargé du numérique. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Le théâtre se doit-il d'être politique? Est-ce qu'il faut forcément que les pièces délivrent un message à caractère militant? Et d'ailleurs, que peut le théâtre? Tout simplement, on en parlera avec notre invité, l'historien Olivier Neveu.
Merci et à tout à l'heure. Même si l'image insoutenable publiée hier d'un père et de sa fille d'à peine 2 ans noyés dans le Rio Grande, gisant face dans la boue, unis dans la mort, suscite par son degré d'horreur davantage d'émotion, voire d'indignation, que la photo d'un simple navire humanitaire errant en Méditerranée avec 42 migrants à son bord. Ces deux scènes témoignent pourtant d'une seule et même réalité, non seulement le drame vécu par tous ceux qui nourrissent aujourd'hui le rêve d'échapper aux violences dans leur pays et espèrent une vie meilleure ailleurs, mais aussi les conséquences parfois tragiques de ce tour de vis migratoire imposé par peur ou par calcul par tous ceux qui choisissent de fermer leurs portes aux plus démunis. Alors hier, après avoir longtemps navigué le long de la ligne des eaux territoriales italiennes, le Sea-Watch a donc décidé d'y pénétrer en dépit des déclarations du gouvernement italien qui refuse de l'accueillir. Le navire humanitaire s'est arrêté au milieu d'après-midi en face du port de l'île de Lampedusa. La capitaine de cette arche de Noé pour migrants, une jeune femme de 31 ans, a décidé de passer outre le blocus décrété par les autorités italiennes, faisant valoir que la situation à bord était plus désespérée que jamais. Louise Baudet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors à quoi faut-il s'attendre à présent?
Eh bien potentiellement à une longue attente, car ce n'est plus le Sea-Watch 3 qui a la main, mais bien les autorités italiennes, les gardes-côtes et la Guardia di Finanza surveillent étroitement le navire depuis qu'il a franchi les eaux territoriales italiennes hier à la mi-journée. Le bateau est désormais à l'arrêt à 3000 nautiques du port de Lampedusa. Voilà ce qu'explique via Twitter la capitaine Carola Racketeux.
Les autorités italiennes viennent juste de monter à bord du Sea-Watch 3. Nous sommes à l'arrêt à l'extérieur du port de Lampedusa. Les gardes-côtes ont vérifié nos certificats de navigation et les passeports de l'équipage. Et maintenant, ils attendent les instructions de leurs supérieurs. J'espère vraiment qu'ils vont bientôt faire débarquer les rescapés.
Alors, 11 personnes fragiles, enfants, malades et femmes enceintes ont pu débarquer ces derniers jours. Mais 42 migrants, vous le disiez, sont toujours à bord. L'ONG Sea-Watch relaie les témoignages de ces hommes et femmes qui désespèrent et qui appellent à l'aide, comme Herman, originaire de Côte d'Ivoire.
Nous ne pouvons plus tenir, nous sommes comme dans une prison, parce que nous sommes privés de tout. On ne peut rien faire, on ne peut même pas marcher, aller un peu plus loin, parce que le bateau est petit. Et nous sommes beaucoup, il n'y a plus d'espace. Nous demandons de l'aide à l'humanité.
Tous attendent maintenant l'autorisation de débarquer, mais rien n'indique pour l'heure que l'Italie soit disposée à les faire accoster. En forçant le blocus, Carola Racketeux et l'ONG Sea-Watch ont pris le risque de poursuites judiciaires, d'une amende de 50 000 euros et de la saisie du bateau. Arsenal juridique au diapason d'un Matteo Salvini éructant sur les réseaux sociaux contre, je cite, « cette emmerdeuse de capitaine et le petit jeu politique sordide d'une ONG hors la loi ».
Merci Louise Baudet. Et puis je précise qu'au-delà de l'intransigeance donc italienne, en particulier de Matteo Salvini, lequel campe sur cette ligne d'absolue fermeté, personne en réalité ne semble vouloir se saisir du problème. Avant-hier, la Cour européenne des droits de l'homme, saisie par l'ONG allemande, a même refusé d'intervenir en urgence, ou quand les demandes de faire débarquer les naufragés émanant de différentes ONG ou même du HCR ne rencontre pas grand écho en Europe en général. Un autre espoir déçu vis-à-vis de l'Europe, comme annoncé le mois dernier, l'Iran va dépasser à partir d'aujourd'hui son seuil limite autorisé de réserve d'uranium enrichi, tel qu'imposé jusque-là par l'accord de Vienne de 2015. Or, si cette décision de Téhéran intervient évidemment dans un contexte d'extrême tension avec Washington, elle témoigne aussi de la lassitude aujourd'hui de la République islamique vis-à-vis des promesses des Européens qui disent vouloir sauver l'accord depuis le retrait unilatéral des États-Unis, mais peinent à trouver les moyens de cette ambition. Autre front et autre guerre par procuration entre les États-Unis et la Chine, cette fois-ci le divorce est-il inévitable? Le président Xi Jinping est arrivé ce matin à Osaka à la veille d'un G20 dont il partagera la vedette avec son homologue américain, bien décidé à en découdre. La rencontre des deux hommes prévue samedi s'annonce d'ores et déjà comme l'un des grands moments d'un sommet tumultueux. Hier encore, Donald Trump a menacé d'imposer de nouvelles taxes sur les importations chinoises. Lui aussi a pris la route pour Osaka et le sommet du G20, lui c'est Jair Bolsonaro. Or voilà que lors d'une escale à Séville mardi, la garde civile espagnole a découvert dans l'avion de réserve qui devançait l'appareil du président brésilien pas moins de 39 kilos de cocaïne. La drogue était répartie dans 37 petits paquets contenus dans le bagage à main d'un membre du convoi présidentiel. L'homme, un militaire de 38 ans, n'avait visiblement même pas pris soin de camoufler les briques de poudre. Les précisions à Madrid de Mathieu de Taillac.
Visiblement, le sergent Manuel Silva Rodriguez ne s'attendait pas à être inquiété. Il tirait sa valise cabine d'une main, tenait un porte-costume dans l'autre. Les douaniers ont découvert dans la première 37 paquets d'un peu plus d'un kilo chacun de la cocaïne que le sous-officier n'avait même pas cherché à dissimuler entre deux chemises. Manuel Silva faisait escale à Séville sur sa route vers Osaka au Japon où commence demain le sommet du G20. Le militaire a été immédiatement arrêté. Il est actuellement en détention préventive, accusé de trafic de drogue. La garde civile tente de déterminer à qui la cocaïne était destinée et notamment s'il était prévu de l'écouler sur le marché espagnol. Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a réagi sur Twitter pour garantir la collaboration de son gouvernement et prendre ses distances avec le suspect. Notre armée est constituée de 300 000 personnes à l'éthique irréprochable, a-t-il notamment considéré. Hasard ou coïncidence, son avion en tout cas a modifié sa feuille de route. Au lieu de faire escale lui aussi à Séville, il a finalement été décidé de passer par Lisbonne. L'épisode en rappelle un autre, l'arrestation d'un militaire brésilien en escale aux Canaries en 1999. Il voyageait vers la France avec 33 kilos de cocaïne et fut condamné à 16 ans de prison. Le procès avait mis en évidence l'existence d'un réseau qui utilisait les avions de l'armée de l'air brésilienne.
Nicolas Maduro a-t-il échappé à une tentative d'assassinat et son pays à un nouveau coup d'État? C'est en tous les cas ce qu'a affirmé hier le ministre vénézuélien de la Communication, lequel assure qu'une tentative de putsch fomentée par les Américains, les Colombiens et les Chiliens, et impliquant par ailleurs l'opposition, a été déjouée. Selon le ministre, le coup d'État qui prévoyait rien de moins que l'assassinat du président élu devait avoir lieu entre dimanche et lundi. Au moins 6 personnes, des militaires actifs ou en retraite, ont été arrêtées et 140 000 cartouches saisies. De son côté, le chef de l'opposition, Juan Guaido, qui avait tenté au printemps dernier de susciter un soulèvement militaire pour renverser le régime, a aussitôt rejeté les allégations du gouvernement. Quoi qu'il en soit, voilà 5 mois maintenant que le jeu politique au Venezuela s'est figé dans un face-à-face, tandis que le pays tout entier reste, lui, secoué par une profonde crise économique. Et si le Venezuela est donc aujourd'hui sans conteste l'un des pays membres de l'OPEP les plus en difficulté, à l'inverse, d'autres bénéficient encore de revenus confortables. C'est le cas notamment de l'Arabie Saoudite, dont le prince héritier Mohamed Ben Salman est arrivé hier à Séoul. Il faut dire que Riyad constitue aujourd'hui le premier marché de construction civile pour les entreprises sud-coréennes. Les deux pays ont d'ailleurs signé dès hier soir un accord de coopération économique d'une valeur de 8,3 milliards de dollars. Au camp, réserves et production pétrolière ont tendance à faciliter les alliances géostratégiques, mais aussi à éviter que ses partenaires ne s'aventurent sur des sujets trop délicats. C'est ainsi, par exemple, que le président sud-coréen, pourtant ancien avocat des droits de l'homme, n'a pas pipé mot hier sur l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Les précisions à Séoul du correspondant de RFI pour France Culture, Frédéric Ojardias.
La Corée du Sud s'est inclinée bien bas pour accueillir le prince héritier saoudien. Tous les quotidiens du pays ont publié en première page de grandes publicités lui souhaitant la bienvenue, publicité financée par S-Oil, compagnie pétrolière coréenne possédée par la saoudienne Aramco. Deux portraits géants de Bin Salman ont aussi été accrochés sur le gratte-ciel S-Oil à Séoul. Le dirigeant saoudien a été accueilli en grande pompe par le président coréen Moon Jae-in, un ancien avocat des droits de l'homme qui a cependant soigneusement évité de parler du meurtre du du journaliste Jamal Khashoggi. Ce critique du royaume a été assassiné dans le consulat saoudien d'Istanbul en octobre dernier. Les deux dirigeants ont signé un accord de coopération économique d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars. L'Arabie saoudite est le premier marché de construction de génie civil pour les entreprises sud-coréennes, a rappelé Moon Jae-in. Critiqué à l'ouest, Mohamed bin Salman se tourne désormais vers l'Asie, visites au Pakistan, en Inde et en Chine en février, en Corée du Sud puis au Japon cette semaine, des pays où la diplomatie du pétrole fonctionne bien et où on ne pose guère de questions sur les assassinats de journalistes.
Emmanuel Macron achève lui aujourd'hui sa visite officielle au Japon, le chef de l'État qui en aura surtout profité pour lancer certains des grands sujets qui domineront demain l'ouverture du sommet du G20. C'est ainsi qu'hier par exemple, Emmanuel Macron a déjà brandi la menace de ne pas signer le communiqué final du sommet si celui-ci devait marquer un recul sur la question climatique. Les précisions de notre envoyé spécial au Japon, Dominique André.
Emmanuel Macron menace de ne pas signer la déclaration finale du G20. Les dernières informations en provenance d'Osaka, où se tiendra le sommet, ne sont pas bonnes pour le climat. Le Japon, qui organise le G20, est sous la pression des États-Unis, qui ont quitté l'accord de Paris sur le climat en 2015. Pour ne pas les froisser, les Japonais ont édulcoré le communiqué final qui sera soumis aux 20 chefs d'État et de gouvernement. On sait que les Américains sont sur une ligne dure, fait savoir l'Élysée. Ils refusent que l'accord de Paris sur le climat soit mentionné dans la déclaration finale. C'est inacceptable pour le président. Si c'est le cas, il y a un risque que la France ne signe pas. Les discussions se poursuivent encore à 24 heures de l'ouverture du sommet et le chef de l'État français fait monter la pression. On n'est pas dans un bras de fer avec le Japon, précise-t-on à l'Élysée, mais le Premier ministre Shinzo Abe a bien peu de marge de manœuvre face aux grands partenaires et protecteurs américains.
Alors, en dépit de la volonté insatiable du président de la République de faire honneur à son statut de champion de la Terre, l'actualité récente laisse toutefois entendre que les discours d'Emmanuel Macron ont parfois du mal à s'accorder avec la réalité. Après que le Haut Conseil a estimé hier que la France, qui se targue de l'accord de Paris, n'en fait vraiment pas assez, aujourd'hui c'est au tour de l'Institut Montaigne de juger que la politique énergétique de la France n'est pas assez volontariste, et que dire encore de la manifestation qui se déroule en ce moment même à la Défense par des fonctionnaires du ministère de l'Écologie, qui eux aussi dénoncent le double discours du gouvernement sur la transition écologique. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Visiblement, le champion autoproclamé du « Make our planet great again » a du mal à faire respecter les objectifs qu'il s'est lui-même fixés.
Oui, « Make notre ministère great again », c'est le mot d'ordre des fonctionnaires du ministère de l'écologie mobilisés, vous le disiez, pour dénoncer le fossé toujours plus profond entre d'un côté les paroles ambitieuses, de l'autre les moyens pour les mettre en œuvre. Ces derniers jours, effectivement, ce genre de constat s'accumule, reconnaît le climatologue Jean Jouzel.
Ce sont toute une série de rapports qui à la fois généralement reconnaissent l'ambition de notre pays, son souhait d'emmener l'Europe, la réussite de l'accord de Paris, mais le fait que quand on regarde concrètement, eh bien les engagements pris risquent de ne pas être respectés. Quand on regarde ne serait-ce qu'à horizon 2020, si on parle de la part d'énergie renouvelable à 23%, nous n'y serons pas, c'est très clair.
Et ce n'est pas franchement rassurant pour Jean Jouzel. Il est grand temps d'en faire plus et surtout d'y consacrer plus de moyens.
Il faudrait ajouter 2% du PIB, soit 45 milliards d'euros chaque année. Pas d'argent public, hein, c'est pas de ça dont on parle, mais vraiment d'investissement public et privé. Eh bien, ces investissements doivent être là. On ne réussira pas cette transition écologique au sens large sans investissements supplémentaires, des investissements à la hauteur de l'ambition affichée dans les textes de loi.
Et l'État peut mieux faire, peut mettre plus sur la table, peut mieux porter les projets au niveau européen, peut renforcer les mesures en matière d'adaptation au réchauffement climatique et pas seulement les mesures d'urgence. Pour autant, faut-il tout attendre de l'État, du président et du gouvernement? Pas vraiment pour Jean Jouzel. Selon le climatologue, on doit tous s'y mettre, collectivités, entreprises privées et nous, citoyens. Seule façon, dit-il, d'atteindre les objectifs, si ambitieux soient-ils.
Merci Rosalie Lafarge. C'est un terme assez peu connu du grand public et c'est en quelque sorte la face cachée aussi de la révolution numérique à l'œuvre actuellement. La pollution digitale produite par le parc informatique autant que par l'usage d'Internet est aujourd'hui responsable d'une importante partie des émissions de CO2 de la planète. Il faut dire que de plus en plus de démarches sont aujourd'hui à effectuer sur Internet et la question risque d'ailleurs de se poser plus sérieusement encore avec le programme Action Publique 2022, lequel prévoit que la totalité des services administratifs soient dématérialisés et accessibles en ligne d'ici à 3 ans. Sauf que pour l'heure, le débat ne porte pas franchement sur les conséquences de cette pollution numérique, mais plutôt sur les moyens pour les collectivités d'accélérer le processus. Les précisions de Pauline Pénanec.
Le chantier de la transformation numérique est énorme, mais certaines collectivités sont déjà bien avancées.
La transformation numérique des territoires est vraiment en marche.
Karine Donien-Sauze est la vice-présidente de la métropole du Grand Lyon, où les élus expérimentent le guichet numérique.
Qui permet surtout aux citoyens d'être une partie prenante à part entière, c'est-à-dire de ne plus être simplement consommateur ou utilisateur de services publics, mais aussi de donner des alertes ou lui-même d'être force de proposition.
Alors c'est un exemple, il y en a d'autres, mais pour Emmanuel Grégoire, adjoint à la mairie de Paris, l'État doit aller plus loin.
C'est impensable qu'à l'heure de la société numérique dans laquelle on vit, on continue à devoir multiplier des formulaires, etc. L'avantage du numérique, c'est de garder la trace, c'est le stockage, c'est le traitement de la donnée pour essayer d'en tirer des enseignements. Et notamment, ça permet aussi d'économiser des moyens qu'on peut réaffecter à de l'accompagnement individualisé de ceux qui en ont besoin.
Ceux qui pourraient être atteints d'électronisme, comprenez l'illettrisme du numérique. Jacques Aubertier, le président du SICOVAL, l'agglomération du Sud-Est. Toulousain.
Nous avons entamé quelque part une course contre la montre pour aller rechercher le citoyen, voire même l'entreprise qui est laissée pour compte du numérique. Il faut que tout le monde se remonte les manches et qu'il n'y ait pas d'un côté ceux qui vont faire des économies sur la dématérialisation et de l'autre ceux qui vont finalement assumer des charges supplémentaires. Il nous appartient collectivement et c'est sans doute une grande cause nationale de lutter contre l'électronisme.
La tâche est loin d'être acquise. Selon une étude du CSA, un Français sur 4 n'est pas à l'aise avec le numérique.
12h47 sur France Culture, l'heure de l'invité politique de la rédaction. Aujourd'hui, Cédric O, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes Publics, chargé du numérique en direct et en duplex du ministère des Finances. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Maxime Tellier. Bonjour Maxime.
Bonjour Thomas.
Une première question, monsieur O. Cette semaine, vous avez invité les journalistes à s'organiser pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation. Faute de quoi, avez-vous précisé, c'est l'État qui s'en chargera. Les médias français regorgeraient-ils à ce point de mauvais journalistes qu'un ordre serait nécessaire pour encadrer leurs pratiques?
Bon, alors d'abord, je veux faire une précision qui est que j'ai tenu des propos qui n'engageaient que moi et qui ne sont en aucun cas la position du gouvernement qui, le cas échéant, aura l'occasion d'être précisé par la bouche de Franck Riester. Toutefois, il est vrai que j'ai tenu ces propos et que ça a créé un certain émoi. Un peu à raison, il y a certains termes qui étaient un peu exagérés, mais je pense que le sujet mérite d'être traité et mérite d'être traité calmement. Quel est-il ? Il y a un certain nombre de pays, voire de groupes de pression ou d'intérêts étrangers qui utilisent certains médias en France avec l'objectif plus ou moins affiché de perturber le processus démocratique, voire de favoriser l'accession de tel ou tel parti plus favorable à leurs intérêts. Je pense que c'est un problème très important pour la société et la démocratie française, et qui mérite d'être traité. Ma conviction, c'est que c'est un problème de déontologie journalistique et qu'il ne peut être traité que par les médias. Et que donc, je pense que les médias doivent s'organiser. J'ai utilisé un terme très inapproprié qui est conseil de l'ordre, qui renvoie à d'autres références, mais on voit à l'étranger qu'il existe des conseils de déontologie, on le voit en Belgique, on le voit au Canada, on le voit au Royaume-Uni, où les journalistes entre eux s'organisent pour juger, enfin estimer si l'action de tel ou tel d'entre eux est conforme à la déontologie journalistique. Je pense que ça serait très malvenu que l'État s'en mêle, mais je pense que le sujet mérite absolument d'être traité, parce que si on ne fait rien, alors la fin de l'histoire risque d'être problématique et nous n'aurons alors que nos yeux pour pleurer.
Une question de Maxime Tellier.
Mais comprenez-vous l'émotion que vos propos ont déclenché pendant la campagne présidentielle? Emmanuel Macron avait répondu à une proposition du FN qui demandait la création d'un ordre des journalistes. Il avait répondu qu'il n'avait pas croisé cette idée depuis l'Italie des années 30. C'est ce terme qui a choqué, c'est l'ultimatum que vous avez semblé vouloir donner. Plus largement, est-ce que vous soutenez l'initiative qui a lieu en ce moment de création d'un observatoire de la déontologie de l'information, qui est peut-être ce que vous sous-entendiez dans cette interview donnée à Reuters avant-hier?
Oui, il faut dire d'abord, j'ai eu des paroles qui sont un peu malheureuses dans les termes qui ont été choisis. Conseil de l'ordre, ce n'était pas le bon terme. Et lorsque j'ai dit, si les journalistes ne le font pas, l'État le fera, ce n'était pas du tout ni une menace, ni même un souhait. L'idée, c'était que c'était une appréciation de la dynamique politique et démocratique qui est en cours, avec une ingérence étrangère ou une intelligence externe dans les processus démocratiques, et la crainte, c'est une crainte, que si les journalistes ne règlent pas le problème, devant l'énorme problème que ça pose et le risque démocratique, à la fin, les gouvernements, même des pays démocratiques, soient tentés de s'en saisir, ce qui est un gros problème, parce que je pense que l'État ne doit pas intervenir dans le sujet de la liberté de la presse. Ce que je voulais dire à travers de conseils d'ordre, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire renvoyer à l'idée d'un conseil déontologique qui a été recommandé par le rapport remis par Emmanuel Hogg au ministre de la Culture, et l'idée que les journalistes puissent commencer de se saisir du sujet. Plein de questions sont posées, et donc qui méritent d'être adressées.
Donc vous soutenez cette initiative.
Exactement.
Par ailleurs, le gouvernement est à l'offensive contre tout ce qu'on pourrait qualifier de contenu indésirable sur Internet, fausses nouvelles, propos haineux. Il y a cette proposition de loi pour lutter contre la haine sur Internet qui sera débattue à l'Assemblée nationale à partir de mercredi prochain, le 3 juillet. Quelle efficacité vous en attendez, alors que la loi sur les fake news qui a été validée en fin d'année 2018 n'a pas eu d'efficacité, du moins sur le plan judiciaire?
Alors, elle n'a pas eu d'efficacité, la loi sur les fake news, mais parce qu'on n'a pas été confronté à une tentative d'ingérence étrangère. En tout cas, il n'y a pas eu de cas d'usage. Si
je puis dire. La seule fois où la justice a été saisie, c'est donc en période électorale, cette loi, c'était concernant les propos de Christophe Castaner concernant l'envahissement de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il n'a pas été poursuivi, d'ailleurs.
Exactement. Alors, pour revenir sur la loi sur la lutte contre la haine en ligne, le but, c'est de mettre un coup d'arrêt au déferlement de haine en ligne auquel on assiste aujourd'hui. On voit qu'il y a des études qui disent que ça a augmenté de 30% en un an. Honnêtement, il n'y a pas besoin des études. Il nous suffit, à vous, moi, à vos auditeurs, d'aller passer 3 minutes sur Twitter ou Facebook pour se rendre compte qu'aujourd'hui, injures, menaces de mort, injures racistes, homophobes, etc., pullulent sur Internet et ne sont pas réprimandées.
Un contenu sur 7 environ est un contenu
haineux. C'est un problème quasiment de santé publique et de démocratie, parce que je pense que ça contribue à augmenter le niveau de violence dans la société. Pour lutter contre ça, il faut faire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il faut mettre en place des processus judiciaires efficaces qui font que les gens qui commettent ces actes répondent de leurs actes devant la justice. Quelque chose qui est illégal hors ligne doit être illégal en ligne et être jugé comme tel. C'est pour ça que la ministre de la Justice a proposé un certain nombre de modifications, spécialisation du parquet, plainte en ligne. Et c'est pour ça qu'on a travaillé aussi avec Facebook pour qu'ils nous donnent les adresses IP des gens qui commettent des actes de haine en ligne, pour qu'on puisse derrière aller chercher la justice, c'est toujours la justice qui doit intervenir, aller chercher les responsables. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une responsabilité particulière des grands réseaux sociaux, c'est que des contenus manifestement illicites peuvent se propager extrêmement vite, et donc on leur demande de se mettre en condition de retirer les contenus illicites en moins de 24 heures pour éviter la diffusion de ces contenus qui font beaucoup de mal.
Et ça, vous pensez que c'est possible? Pour les contenus terroristes, c'est même moins d'une heure, c'est ça?
Alors, effectivement, il faut faire la différence entre les contenus. Aujourd'hui, les contenus terroristes et pédopornographiques sont relativement bien gérés par ces plateformes. Ils sont retirés très très vite. La règle qu'on a posée, c'est une heure. Ce qu'on cherche à adresser, ce n'est pas ces contenus-là. C'est les contenus, c'est les injures, les menaces de mort, etc., qui sont beaucoup plus répandues et sur lesquelles il faut faire un effort particulier. On pense qu'on met en place une régulation qui va permettre de gérer le sujet au bon niveau. Après, il faut avoir une certaine humilité. C'est un sujet que aucun pays dans le monde n'a réussi à régler aujourd'hui. Nous, on a beaucoup travaillé, y compris techniquement, avec les plateformes pour travailler sur le sujet et réussir à mettre en place quelque chose qui marche. L'accord qu'on a eu avec Facebook avant-hier sur la fourniture des adresses IP est une première victoire, parce qu'ils ne le font que pour la France. Et on pense qu'on pose les bases de quelque chose qui va marcher.
Et justement, que change cette annonce que vous avez faite concernant Facebook? Actuellement, c'est difficile de retrouver les auteurs de contenu haineux en ligne, ça va faciliter.
Actuellement, si aujourd'hui vous m'insultez sur Facebook et que je cherche à identifier qui vous êtes, parce que souvent vous êtes sous pseudo, Facebook ne me donne pas votre adresse IP, donc la justice ne peut pas aller vous chercher. Demain, la justice viendra vous chercher.
Et en plus de Facebook, est-ce que vous êtes en négociation avec Twitter, avec
on parle avec les autres,
il y a aussi des forums où il y a beaucoup
on
de
on parle avec
de
les
haine,
autres qui
souvent.
Peuvent manifestement faire beaucoup de progrès. Et donc on espère que l'exemple de Facebook sera suivi par les autres.
Dans tous ces domaines, vous avancez, pour ainsi dire, sur la corde raide entre lutte légitime contre les fausses nouvelles, les propos haineux et risque d'atteinte à la liberté d'expression. Est-ce que vous soutenez le projet de Nicole Belloubet de sortir l'injure et la diffamation de la loi de 1881 sur la liberté de la presse? Ça permettrait, si c'était effectif, d'inscrire ces délits dans le droit pénal commun, ce qui permettrait la détention provisoire et la comparution immédiate.
Tout ce qui touche à la liberté de la presse, il faut y toucher avec beaucoup de prudence. Nicole Belloubet a dit qu'elle saisirait la Commission nationale des droits de l'homme, consultative des droits de l'homme, sur le sujet pour avoir un avis. L'avis du gouvernement à ce stade n'est pas de modifier la loi de 81. Attendons l'avis de la CNCDH et puis on verra à ce moment-là.
Dernière question, si on a le temps. Est-ce que vous souhaitez un renforcement des pouvoirs du CSA dans la future loi audiovisuelle, notamment dans la loi sur les fake news, pour lutter contre les fake news? Pardon, je rappelle que Cette loi donne le pouvoir au CSA de suspendre une chaîne comme Russia Today ou Sputnik. Ce sont des chaînes que vous ne portez pas dans votre cœur.
En quelques mots, s'il vous plaît.
Je ne nomme personne. Je pense que c'est d'abord aux journalistes de s'organiser sur cette question des fake news.
Et pas au CSA.
D'abord aux journalistes.
Merci beaucoup, Cédric Haut, secrétaire d'État au numérique, d'avoir été notre invité ce midi sur France Culture.
Merci. Et merci à vous également, Maxime Tellier, ainsi qu'à Marcos Darras pour les moyens techniques. On termine avec un mot de météo. Cette journée de jeudi sera sans doute la plus chaude de l'épisode caniculaire, avec partout un soleil de plomb. Des températures affichent entre 27 et 42 degrés. On compte à présent 78 départements placés en vigilance orange. Enfin, sachez que de l'Île-de-France au Grand Est et à Rhône-Alpes, cette canicule pourra également s'accompagner d'une pollution à l'ozone. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue, et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.